bonsoir à tous. Hommage ce matin à la compagnie de Bressuire à la mémoire du gendarme Guy Aussy, tombé en service il y a 40 ans, affecté en bocage durant de nombreuses années. La caserne Bressuire porte d'ailleurs son nom depuis plus de 30 ans. Passage de relais à la Forêt-sur-Sèvre. Le maire ne souhaitant pas se représenter, son premier adjoint Nathaël de Fombelle reprend le flambeau. Les Deux-Sévriens, bons élèves en matière de tri des emballages ménagers et papier, mais les chiffres pourraient encore s'améliorer. Le soutien à la santé mentale en France et l'action de lutte contre la mortalité infantile au Maroc, les priorités du nouveau président du Rotary Club de Bressuire. Après la défaite surprise il y a une semaine à Nancy, Cholet Basket compte se ressaisir demain soir avec la réception de Nanterre. Ça sera bien entendu à suivre en direct sur Colline.
À la météo, à la suite du journal, peut-être un peu de pluie demain matin avant normalement un après-midi bien ensoleillé. Jour de recueillement ce jeudi pour les victimes du 13 novembre.
Stade de France, terrasse parisienne, Bataclan, Saint-Denis et Paris rendent hommage ce jeudi aux 132 morts et plus de 350 blessés il y a 10 ans, jour pour jour, avec en point d'orgue l'inauguration ce soir d'un jardin mémoriel place Saint-Gervais dans le 4e arrondissement de Paris. Cérémonie de commémoration également ce jeudi à la gendarmerie de Bressuire. Un hommage a en effet été rendu au gendarme Guy Aussy, abattu par un malfaiteur le 13 novembre 1985 lors d'une opération anti-stupéfiant en Guadeloupe. Guadeloupe, ce qui était sa nouvelle affectation. Ce dernier avait été gendarme à la brigade territoriale, puis à la brigade de recherche de Bressuire. De 1976 à 1983, la compagnie, dont la caserne porte le nom de Guy Aussy, a voulu ce jeudi lui rendre hommage en présence de sa veuve Chantal, de ses filles Audrey et Karine et ses petites filles. Le capitaine Olivier Camper dirige la compagnie bressuraise depuis l'été dernier.
C'était important pour moi, qui est arrivé cet été, de rendre hommage à celui qui, il y a 40 ans, est tombé. C'est un métier dangereux et chaque jour qui passe nous le rappelle. Il faut savoir aussi honorer nos morts.
Peu de personnes peut-être savent que cette caserne porte le nom du gendarme aussi.
Tout à fait. Moi je l'ai découvert d'ailleurs en arrivant. Certaines fois, lorsque vous adressez un courrier à la gendarmerie, vous mettez le nom de la rue et des fois caserne, gendarme aussi. C'est vraiment important pour la gendarmerie aussi de rendre hommage à ces morts en baptisant des casernes au nom de ceux qui sont tombés pour le service de la France.
Est-ce que cette cérémonie aujourd'hui, mon capitaine, n'a pas un écho particulier en ce 13 novembre ?
Tout à fait. Il y a 10 ans, mes prédécesseurs étaient ici même, en présence de la famille aussi, pour rendre hommage à l'occasion des 30 ans de la mort en service du gendarme aussi. Et le soir même, il y avait effectivement les attentats en région parisienne. Donc cette cérémonie est aussi un hommage à tous ceux qui sont tombés.
10 ans après les attaques du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis, la menace terroriste en France reste élevée et les forces de l'ordre ont dû s'adapter pour une meilleure réactivité.
Le dispositif par rapport au terrorisme a évidemment changé depuis 2015. Les événements de Charlie Hebdo, mais aussi les événements de ce 13 novembre 2015. On a une posture plus offensive, on a un équipement qui est relevé au niveau de la menace à laquelle nous sommes confrontés, et notamment les pelotons de surveillance et d'intervention dans chaque compagnie qui ont été densifiés. Donc nous n'avons plus que du personnel sous-officier, ils sont équipés d'armes lourdes, d'équipements de protection plus robustes, afin de pouvoir répondre dans les 20 minutes à un événement à caractère terroriste.
Le capitaine Olivier Camper, ce matin, lors de cette cérémonie en hommage au gendarme Guy Aussy, abattu en mission il y a 40 ans en Guadeloupe. Depuis septembre 1993, la caserne de gendarmerie de Bressuire porte le nom du gendarme Aussy. Un peu plus de 160 000 euros, c'est la somme que devra débourser une PME de Vendée après un accident du travail fatal dont a été victime un de ses salariés au début de l'été 2017. Ce jour-là, alors qu'il se trouvait avec un collègue sur la charpente d'un hangar agricole à la Forêt-sur-Sèvre, celle-ci a cédé, faisant chuter l'employé de 5 mètres, le tuant sur le coup. L'entreprise a été reconnue coupable de négligence, le salarié n'étant équipé d'aucun système de sécurité et devra donc s'acquitter d'une amende de plus de 160 000 euros. Elle dispose de 10 jours pour faire appel.
Nous l'évoquions ici même hier à propos des municipales 2026 à La Forêt-sur-Sèvre. Thierry Marolo va passer la main.
Cela se murmurait depuis déjà pas mal de temps sur le Grand La Forêt, mais rien n'était figé dans le marbre. C'est désormais confirmé. Nathanaël de Fombelle se pose en successeur de Thierry Marolo, à condition d'être élu bien sûr, mais rien n'indique pour le moment qu'une deuxième liste ne se forme. Après 2 mandats d'adjoint, le dernier en tant que premier adjoint, Nathanaël de Fombelle, 47 ans, se lance donc en première ligne. Il incarne à la fois le renouvellement et la continuité.
Il y a un passage de flambeau qui se fait, qui va permettre à une équipe en tout cas de proposer de se placer dans la continuité de ce qui a été fait depuis deux mandats. Et Thierry effectivement a eu la sagesse de sentir qu'il y avait une relève qui était prête et qu'il fallait passer la main. On a fait beaucoup de choses avec Thierry et toute l'équipe municipale pendant ces deux derniers mandats. Et l'objectif est de se placer vraiment dans une continuité, dans le dynamisme, dans... Moi, j'ai été à l'école de Thierry dans ce qui touche à la réactivité, au fait d'être dans l'efficacité, d'être toujours dans le coup d'après. Donc ça, on va rester avec cette vigilance pour permettre de vivre et de bien vivre dans nos territoires, dans nos communes. Mais effectivement, il y aura sans doute des différences. D'abord parce que beaucoup de choses ont été faites pendant ces deux mandats et qu'on a des salles qui sont au carré, on a des commerces qui se sont réinstallés. Maintenant, il faut aussi continuer, bien sûr, à faire, mais aussi à animer tout ce qui existe.
Nathanaël de Fombelle part donc en campagne, mais pas seul, avec un certain nombre de conseillers sortants, parmi lesquels des adjoints. On peut notamment citer Maryse Nourisson à Montigny ou encore Yvon Abelard à La Ronde. La liste est en cours de constitution et devrait pouvoir être présentée en début d'année prochaine.
C'est une course de fond et moi j'attache une grande importance à l'équipe, à sa diversité, à ce qu'elle soit représentative de tout le territoire, mais avec un socle commun, avec quelque chose, avec des valeurs fortes, avec une loyauté forte, avec un respect mutuel qui doit être vraiment important. Et donc c'est pour ça que on prend un peu de temps, on s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour finaliser cette liste pour le Grand La Forêt, pour la forêt. C'est quelque chose qui est vraiment important pour pouvoir ensuite construire le projet.
Alors 2400 habitants, cela représente, et est-ce que ça vous donne des ambitions au niveau de l'agglo ?
Je pense que c'est important effectivement que la forêt retrouve une vraie place au sein de l'agglo, une place constructive aussi. On est dans les 7e ou 8e commune par la taille de l'agglomération, et c'est vrai que retrouver une vraie place dans l'agglo me semble importante, et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je m'engage.
Nathanaël de Fombelle, candidat à la succession de Thierry Marolo à la mairie de La Forêt-sur-Sèvre, au micro-colline de Fabien Gazot.
J'ai une question ce soir, Patrice. Les deux Sévriens sont-ils de bons élèves en matière de tri ?
À l'occasion de la publication des chiffres clés du tri des emballages ménagers et papier au niveau national et départemental par l'éco-organisme Citeo, on apprend justement que notre département se place parmi les bons élèves, et ce grâce au comportement du citoyen consommateur. Frédéric Quintard, le directeur régional de Citeo.
Quand on regarde la moyenne nationale aujourd'hui des emballages ménagers et papier recyclé, elle est à peu près de 72,2 kg par an par habitant. Et si on regarde localement, les deux Sévriens ont trié en 2024 89,8 kg d'emballages ménagers et de papier. 24% supérieur à la moyenne nationale. Donc on peut féliciter justement les deux Sévriens de leur beau geste de tri. Malgré tout cela, il faut quand même avoir aussi en tête qu'il faut qu'on continue de progresser pour qu'on puisse d'accélérer, parce que si vous regardez les ordures ménagères, donc votre bac d'ordures ménagères résiduelles, aujourd'hui celui-ci est constitué encore en poids à peu près de 25% d'emballages ménagers et de papier. Donc un geste de tri qui est bien ancré, bien réalisé dans les Deux-Sèvres, mais globalement il faut qu'on continue justement accélérer.
De bons résultats, mais en substance, vous l'avez entendu, peut mieux faire. Certains dispositifs ont permis d'augmenter le volume des emballages ménagers et papier collectés. D'autres sont envisagés. Frédéric Quintard.
Le département des Deux-Sèvres est un département qui a un taux d'emballage trié qui est important, notamment parce que dans les Deux-Sèvres, il y a ce que l'on appelle une tarification incitative. C'est votre bac d'ordures ménagère, vous payez en fonction de ce que vous produisez, au même titre que l'eau et l'électricité. Et on voit que cette tarification incitative a un véritable effet sur les ordures ménagères, parce que notamment, il y a une collectivité qui s'appelle le Bocage Bressuirais, hein, en 10 ans, la poubelle d'ordures ménagères est passée de 175 kg à 91 kg, donc c'est un véritable levier. Après, vous en avez d'autres, hein. Avec l'essor du e-commerce, il y a de plus en plus de cartons, et donc il faut pouvoir aussi permettre de trier l'ensemble de ces cartons, ou bien dans votre bac jaune, ou bien ce que l'on plébiscite aujourd'hui, c'est de mettre à disposition des colonnes d'apport volontaires sur les cartons, pour justement éviter de saturer son bac jaune. Et puis, vous avez encore d'autres choses, ce qu'on appelle la consigne pour réemploi et consigne pour recyclage. Mais il faut aussi accompagner les citoyens, quand ils sont en dehors de chez eux, d'effectuer ce geste de tri. On appellera ça le tri hors foyer, et nous avons des collectivités comme justement l'agglomération Niort, comme d'autres collectivités, qui s'entrent justement dans ce levier appel à projet hors foyer, justement, pour mettre en place des dispositifs à disposition des citoyens, des touristes.
Frédéric Quintard, directeur régional de Citeo. Enfin, sachez que dans le cadre du plan de lutte contre les déchets abandonnés, Citeo a signé plusieurs conventions avec des collectivités de la région, comme la ville de Niort, visant à mettre en place des initiatives concrètes pour prévenir les déchets abandonnés, améliorer le cadre de vie et favoriser la préservation de l'environnement. Uber Eats, l'application de livraison de repas et de courses à domicile, annonce son arrivée à Thouars. La plateforme continue de développer sa présence dans notre département, étant déjà disponible dans deux autres agglomérations, Niort depuis janvier 2019 et Saint-Mexant-l'École depuis avril dernier.
Colline, c'est l'info presse chez vous, édition du soir, il est 18h13.
En fonction depuis cet été, le nouveau président du Rotary Club de Bressuire, Sébastien Proux, a choisi d'axer son année de présidence sur le soutien à la santé mentale en France, tout en poursuivant l'action de lutte contre la mortalité infantile au Maroc, lancée par son prédécesseur, Sébastien Proux.
Donc une action qui a commencé sur l'année dernière avec Gérard Beauvais autour de la santé de la mère et de l'enfant au Maroc. C'est-à-dire qu'on va financer sur la maison de la mère et de l'enfant des échographes et des caravanes qui vont aller visiter les villages reculés parce qu'il y a un taux de mortalité des mères et de l'enfant très très élevé au Maroc sur les vallées reculées. Même si le premier hôpital est à une cinquantaine de kilomètres, c'est plusieurs heures de marche, voire de voiture de toute façon pour y aller. Donc du coup, les caravanes vont permettre d'aller, grâce à des personnes qui vont être formées également, des aides-soignantes on va dire, pour essayer d'avoir les premières détections d'anomalies de grossesse et de pouvoir ensuite emmener ces femmes dans la maison de la mère et de l'enfant avec des échographes. Et donc on a un partenariat avec les gynécologues de l'hôpital de Madrid qui feront des téléconsultations. Consultations du coup. Donc ça c'est une première grosse action sur notre année.
Quel budget le Rotary réserve à cette action-là ?
Alors le budget global c'est 50 000 dollars et on se fait accompagner donc du club Rotary de Madrid, de Marrakech et également la fondation Rotary International qui abonde l'opération globale.
Deux lignes fortes et des projets détaillés en présence du gouverneur de district Augustin Thieffry venu les rencontrer dans la capitale bocaine. Ce dernier est également au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Je suis rotarien à Angers, mais tous les districts des Pays de Loire un petit peu modifiés, c'est sans la Mayenne plus les Deux-Sèvres, sommes réunis ensemble dans un district. On est 44 clubs, 1200 personnes. Et mon rôle en tant que gouverneur, j'ai élu pour un an par les différents clubs, et c'est d'essayer de faire le lien entre tous les clubs et aussi de faire la promotion de certaines actions qui sont réalisées par tous les clubs. Puisque Sébastien vous a parlé des opérations qui sont faites ici au niveau local, mais on a également des opérations nationales. Et il y en a une notamment qui va avoir lieu à Bressuire, qui est Espoir en tête, qui a lieu tous les ans, où on a la chance d'avoir un film en exclusivité. Et cette année, ça sera Compostelle avec Alexandra Lamy. On va pouvoir vendre des billets pour y venir. Et tous les gains que nous faisons grâce à cette action partent à la recherche pour le cerveau. Et c'est une très belle action, puisque sur l'ensemble de la France, sur une seule semaine, l'an dernier, on a réussi à distribuer 827 000 euros à 5 laboratoires de recherche sur le cerveau.
D'autres actions à l'agenda rotarien 2026 sont à venir, comme une conférence sur l'intelligence artificielle à Cerisay en janvier, la projection du film Compostelle en avant-première à Bressuire en mars, ou une Duke Race, comprenez, une course de canard sur la Sèvre à Montcoutant en avril. Et à chaque fois, les recettes viendront financer les actions du Rotary. Nous aurons le temps d'y revenir en temps et en heure. Un spectacle ce soir au théâtre de Bressuire à 20h30, Niquer la fatalité, est une fête galvanisante qui célèbre la femme sous la forme d'un dialogue amoureux post-mortem entre Estelle Meyer, actrice et chanteuse, et la célèbre avocate féminine Gisèle Halimi. Un récit puissant en musique et en chanson, indique le communiqué.
L'actualité sportive, Patrice.
Les Portugais de Cerisay sanctionnés par le district de football des Deux-Sèvres, information de nos confrères du Courrier de l'Ouest. Dimanche dernier, le match les opposant au Pays Tenzéen en D2 Poule Nord avait été arrêté par l'arbitre suite à des incidents et autres comportements violents. Conséquence, deux joueurs des Portugais de Cerisay sont suspendus jusqu'à une prochaine audition et à titre conservatoire, toute l'équipe est exclue de toute compétition officielle jusqu'à la décision définitive qui soit rendue à l'issue de l'instruction. En clair, la rencontre de troisième tour de la Coupe des Deux-Sèvres contre le FC Otis dimanche 16 novembre est reportée. Sur le terrain maintenant, plutôt sur le parquet, après avoir été surpris à Nancy en fin de semaine dernière, Cholet Basket retrouve la Meilleraie demain soir avec la réception de Nanterre, ou quand le 7e accueille le 5e du championnat de Betclic Elite. Fabrice Lefrançois, le coach de CB, au micro-colline de François Larue.
C'est un match qui est important pour nous parce que dans ce championnat qui est très homogène, très compact, chaque match à domicile est important au final. Contre une équipe qui a très bien commencé son championnat, qui en plus sur une série positive, qui a des forts joueurs d'expérience, ça va être un gros challenge, mais je pense qu'on peut le relever.
Sur les baskets contre Nanterre, demain soir à 20h30. Ce sera bien entendu à suivre en direct sur Colline. Les commentaires demain seront assurés par François Larue et Jérémy Maginot.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Et le soleil, Patrice, aura fait face à plus de nuages ce jeudi.
Des nuages plus consistants, mais qui pour l'heure, j'ai bien dit pour l'heure, n'ont pas encore apporté de précipitations, car la pluie est en effet annoncée pour demain matin. Et si nous entamerons la fin de la semaine sous les nuages, les éclaircies devraient commencer à se développer avant la fin de la matinée. On devrait même connaître un après-midi plutôt bien ensoleillé. Encore du vent annoncé pour demain avec des rafales à 50 voire 60 km par heure. Les températures 15 à 16 degrés au lever du jour, 17 voire 18 degrés au meilleur de l'après-midi. Ce qui nous attend pour le moment, pour le week-end à venir, un samedi plutôt bien ensoleillé, avant un temps plus mitigé annoncé pour dimanche.
Merci Patrice, voilà pour toute l'info près de chez vous, édition du soir, retour de l'actu près de chez vous.
Vous retrouverez Fabien Gassot demain matin à 7h02. Bon début de soirée avec Colline, je vous retrouve demain à 18h pour le Colline Info Soir.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.